Les controverses du village, épisode numéro 15, quatrième partie, le débriefing de la Community Con continue. Je suis là, je suis revenu, je suis Sylvain Lepostec. Je suis accompagné par numéro 2, Dominique Montet.
Bonjour.
Numéro 3, Émilie Flamand.
Et on n'est que tous les trois.
Exactement, on parle très fort, c'est tout. Et donc nous avons plein d'invités dans ce podcast. D'abord Thomas Détouche d'Allociné.
Les hommes d'abord.
C'est oui, parce qu'il y a trop de femmes.
C'est ça.
Laura alias Druggy. Astira Carole pour les intimes. Que vous retrouvez sur Série Addict.
So What.
Voilà, c'est son blog sur les séries. Karen Wittmann, la rédactrice en chef d'Anu Série, la base de données des séries télévisées du réseau Asuf.org.
Merci.
Et Julia Lagré, la live tweeteuse de choc grâce à qui vous suivez tout à distance même quand vous n'y êtes pas. Et qui transmet des informations absolument essentielles grâce à elle. Grâce à elle, on a su que les fans de One Tree Hill avaient chanté ensemble le générique à la fin de la conférence aujourd'hui.
Merci. Ça a changé ma journée.
Je pense que c'était d'intérêt général.
Alors on est
ça a expliqué la pluie.
Tous ensemble pour débriefer cette quatrième et dernière journée de Comic-Con Paris 2012, cette journée du dimanche, qui s'est commencée par une conférence sur la production de Doctor Who. Quelles impressions sur cette conférence? Vous avez appris des choses, Karine?
Oui.
Merci Karine.
Alors, merci pour cette
réponse. Au suivant, Thomas.
On est beaucoup
fermés. Non.
Oh, mince. Alors, nous avons un débat, s'il vous plaît. Donc,
c'est pour ça
alors,
que ça
je propose de débattre en trois temps. Vous posez trois arguments.
Non.
Et là, vous avez trois minutes pour vous répondre. Non. Non, d'accord. Ok.
Caroline Skinner, à la fin, a donné pas mal d'infos sur la saison 7. Ouais.
Donc, on savait déjà avant, mais. Si, je t'assure.
Si, continue.
Elle a fait que répéter des infos qui étaient déjà sorties avant, la grosse menteuse.
Mince alors, je lis pas les spoilers. Donc,
qu'est-ce qu'elle a dit en fait?
Elle a dit
que le premier épisode de la nouvelle saison, il y aurait tous les Daleks qui ne seront jamais apparus dans Doctor Who jusqu'à présent, qui seraient réunis au même endroit dans une même histoire.
J'aime pas les Daleks.
Oui, alors si c'est pour dire ça, c'était pas la peine de venir au podcast.
Il y a tellement de monde, on peut virer des gens.
Elle a dit ensuite qu'il y avait un épisode de western avec un nouveau monstre, que Chris Chibnall avait écrit deux épisodes, un centré sur Amy et Rory, avec un titre, en fait le pitch que Moffat lui a proposé, c'était simplement le titre de...
Non, c'est l'inverse.
Amy et Rory, c'est une idée de Chris Chibnall, qui est super bien, et quand Steven Moffat a entendu l'idée, il est sorti de la rue, après il a dit à Carol Skinner, en fait cette idée, il pourrait faire un film avec, hein, mais faut pas lui dire, parce qu'on va la garder pour Doctor Who, hein. Et donc dans les six premiers épisodes, il y a un deuxième épisode de Chris Chibnall qui là, en fait, le pitch de Steven Moffat, c'était juste le titre de l'épisode, qui est un titre de ouf, mais qui veulent pas nous dire, ça sert vraiment à rien quoi.
Et qui est censé être meilleur que Allons tuer Hitler. Mm-hmm.
Et puis il reste l'épisode d'Amy et Rory, leur finale, dont on nous a répété que ça se passait à New York et avec les Weeping Angels, les anges pleureurs. Ouais. Et puis après il y aura le spécial de Noël, où on rencontrera la nouvelle compagne, et Murray Gold nous a dit qu'il avait déjà composé son thème à la nouvelle.
Non mais en plus, moi je l'ai eu en interview, Murray Gold justement, et je l'ai cuisiné justement sur le fameux thème, et il m'a dit, alors un, je ne mens jamais en français, ensuite il m'a dit que c'était le seul mot en français qu'il connaissait.
C'est pas vrai, il a répondu en français à toutes les questions pendant la conférence.
Donc un menteur.
Et il m'a parlé de banjo pour le thème de...
Et là tu t'es dit, mais attends, est-ce que je...
Je ne mens jamais, banjo, oui.
Moffat sort de ce corps.
Voilà, non, c'était juste ma petite contribution à Doctor.
Elle était super.
Merci.
Et puis moi, j'adore toujours autant Toby Haynes, qui est un réalisateur qui a fait déjà, il a fait des, enfin, en termes de son travail pur, la réalisation, il a fait des trucs que je trouve absolument formidables. Ces épisodes, je les aime vraiment beaucoup sur le plan visuel. Et puis comme type, il est juste, ça va être trop un bonheur de travailler avec lui. Il n'arrive pas à passer plus de 3 secondes sans avoir un sourire jusqu'aux deux oreilles, et il est super enthousiasmant, donc c'est plutôt cool. Émilie, d'autres impressions sur cette conférence Doctor Who?
Moi, je trouve que la
traductrice... Si tu préfères envoyer des SMS tranquilles,
vas-y.
Non.
Je trouve que la traductrice était carrément mieux que les autres années.
Ah non, mais elle était géniale.
Elle s'appelle Yaël.
Voilà, je tiens quand même à le signer parce que chaque année, dans chaque festival, quoi qu'on arrive, où on a, qu'on arrive, il y a toujours un problème de traduction. À chaque fois, il y a un truc, on dit, mais c'est pas possible, punaise, mais ça veut rien dire, ce que tu dis, c'est tout l'inverse. Et là, pour une fois, bon, elle connaissait pas hyper bien la série, mais elle s'était un minimum renseignée pour connaître deux, trois trucs, deux, trois termes.
Et puis elle avait le truc, c'est que quand elle ne savait pas, elle demandait.
Et elle demandait à Romain, où elle avait bien compris qu'il y a des gens qui savaient mieux qu'elle pour les traductions un peu particulières, typiquement les noms des monstres et des méchants. Et c'était canon d'avoir une traductrice qui, pour une fois, rendait vraiment ce que les gens venaient de dire au public.
Le tout sans prendre de notes.
Sans notes, exact.
Impressionnant.
Et puis elle avait un ton super à jouer, super à l'ancienne.
Oui, et elle réagissait.
Elle cassait pas du tout le rythme, en fait.
Elle réagissait, c'est-à-dire que quand le réel, notamment Dobby, à chaque fois qu'il parlait, il y a des moments où il faisait des feintes et tu la voyais qu'il était mort de rire sur scène. Et ça aidait aussi, le mec avait été. Enfin, il y avait un meilleur contact, tout simplement.
Oui,
tu avais moins l'impression d'avoir sorti quelqu'un d'une grotte pour venir faire une traduction, alors que d'habitude, elle traduit des bouquins hyper chiants, et voilà.
C'est gentil pour celle qui était là l'an dernier.
Ah ouais, mais bon.
Si elle écoute le podcast, voilà. Elle va être ravie.
Vous voyez que je suis, hein.
Bon. C'est ça. Laura, des impressions, toi aussi?
J'ai trouvé que c'était pas mal, même si c'est dommage que la productrice, du coup, on sentait qu'elle n'avait pas le droit de dire grand-chose et qu'elle passait son temps à répéter, comme d'habitude. On a entendu « amazing » 15 fois et... ça va être fantastique, mais je peux rien vous dire. Donc, à poser des questions à quelqu'un d'autre.
Si on a appris quand même que maintenant, il faut investir les sous-sols de la BBC, en fait. Voilà. Tout s'y passe. Donc, je pense qu'il faut monter un commando.
Les réunions top secrètes pour préparer le 50e anniversaire.
Ah oui.
Dans le sous-sol du Television Center de la BBC à Londres. Ça donne en ce moment la réunion top secrète.
C'est les 50 ans, c'est ça ?
Exactement.
C'était une blague.
C'était drôle.
Merci.
Ah oui, parce qu'en fait, Caroline Skinner, elle est arrivée sur la série seulement avec le dernier spécial de Noël. Donc finalement, elle a eu qu'un seul épisode sur lequel elle a travaillé qui a été diffusé pour l'instant.
Oui, parce qu'avant, elle était sur The Fate.
Exactement, elle est venue remplacer Pierce Wenger et... Non, il est toujours là, c'est pas un producteur exécutif. Et Bess Willis, voilà, qui sont partis entre les deux saisons. D'autres choses à dire sur cette conférence, Docteur Who?
Moi, j'adore l'extrait qu'a choisi Toby Hayes. C'est mon préféré.
Ah oui, c'est
celui avec les silences.
C'est Ami face au, enfin face au, entre guillemets, aux silences dans l'orphelinat hanté et qui
avec les silences pendus au plafond. Et j'adore cette séquence et j'étais super contente d'avoir le mec qui l'avait fait, qui était là, et deux de voir que voilà, c'était une séquence et de voir aussi la réaction publique, parce que honnêtement, la scène sur Angry Earth n'était pas été hyper.
En même temps, est-ce qu'on parle de l'épisode en entier? Est-ce qu'on parle de...
Ouais, mais celle-là a vachement plus.
Il y avait beaucoup de monde, c'est parce que j'étais pas là pour
c'était blindé.
La salle était pleine, donc ça veut dire.
C'est sur la grande scène, c'est ça?
Ouais, du Comic Con.
Il y avait 650, 700 personnes en comptant ceux qui étaient debout au fond. Quelque chose comme ça.
Ouais,
c'est 600 places, je crois.
C'est 600 places, ouais. Oui, ben donc.
Standing ovation à la fin.
Ouais. Je pense que c'était, ouais.
Non, les gens étaient au taquet.
On n'était pas très très loin des scores de Stephen Moffat l'année dernière. Ouais. Et donc pour revenir sur ce qu'Emily disait.
On était au-delà des scores de Stephen Moffat l'année dernière. Parce que la salle était 400 places l'année dernière.
Ah ouais, d'accord, donc ouais.
Doctor Who, c'est quand même un super truc populaire au niveau du public, du comité.
C'est clairement la cible, en fait. Donc,
j'ai l'impression que ça s'étend.
Le public qui va à Comic-Con qui fout.
Et donc pour revenir sur ce qu'Emily disait par rapport à cette scène, Toby Haynes s'expliquait qu'en fait dans ses épisodes il avait adoré référencer les films qui l'avaient le plus marqué en tant que réalisateur, et du coup là cette scène là était inspirée du travail de Guillermo del Toro, et notamment sur le labyrinthe de Pan, je ne fais pas de bêtises,
ouais,
c'est
le
ça et puis dans son premier épisode qu'il avait fait où ils étaient sous Stonehenge, là évidemment c'était des références à Indiana Jones, et d'ailleurs il ne l'a pas dit ce matin mais c'était dans les Confidential, Toby Haynes adore passer de la musique aux acteurs pendant qu'ils jouent la scène pour les mettre dans l'ambiance, et pendant qu'ils faisaient cette scène là il leur passait la musique d'Indiana Jones justement pour les mettre dans le mood, c'est cool.
Et Chris Tubin a dit que pendant qu'il écrivait ses scénars, il écoutait Murray Gold.
Ouais, il écoute la musique de Murray Gold.
Pour s'inspirer pour ses histoires.
Pour se mettre dans l'ambiance aussi.
J'avais jamais vu au Proms le passage musical, en fait.
Oui, alors donc ils ont tous choisi des extraits, et ce salaud de Murray Gold comme extrait a choisi un extrait de BBC The Proms qui jouait la musique de Doctor Who et Valet Dissem, c'est-à-dire la fin de David Tennant. Donc genre le truc, t'es au milieu de 1000 personnes, t'as envie de pleurer, merci. Sympa Murray Gold, sympa quoi. Bon, et l'autre gros événement de la journée, c'était le fameux jeu avec un nom imprononçable, donc du coup je vais pas essayer.
Quiggy Show. Non, c'est pas ça du tout.
Le Quiggy. Et on pouvait gagner des hamburgers Quick.
En fait, je crois que j'ai faim.
Il faut que tu le fasses 10 fois. Show
Geek Quiz, non ?
Le Show Geek Quiz, ça doit être ça.
Je crois que j'ai faim.
Donc un
merci.
Un jeu déjanté sur la culture geek animé par Simon Astier. Globalement, on va bien rigoler, on va dire ça.
Ouais, voilà, ouais. C'est une bonne programmation de fin de Comic Con quand tout le monde est bien crevé, on a plein les pattes.
Et on a eu le droit au pâté.
Oui, il l'a dit, il l'a dit.
Et il y a, il y a quand même quelqu'un dans la public qui a crié péniche et c'est pas nous.
C'est Antoine.
Ah oui, d'accord, oui, ok, bon, ok, d'accord.
C'est presque nous, alors.
Moi, je me disais, c'est un vrai genre.
Presque.
Antoine, c'est l'admin d'Hérocorpfrance.com.
Voilà.
Non, mais c'était rigolo, c'est toujours rigolo de voir la complicité entre Simon Astier, Arnaud Joyer, Sébastien.
Joyer m'a bien fait marrer. Hein.
Arnaud Joyer, carrément. Il est très très bon parce que là-bas c'est un roi de l'impro. Donc...
Et Joyer avec une guitare, ceux qui connaissent Chansons pour enfants,
oui,
voilà.
Non, mais Joyer, il a toujours ce petit truc pour apporter voilà, son petit grain un peu de folie, bizarrerie, enfin son petit côté absurde en fait. Ça rajoute toujours un côté sympa et avec Simon, ils s'entendent super bien.
Parce que donc dans ce
il y avait une
quiz...
belle inspiration de Burger Quiz, je trouvais, dans l'absurdité des réponses et le jeu qu'on demandait aux personnes d'avoir par rapport à ça, qui était vraiment sympa aussi.
Et sous vos applaudissements, Delphine Rivet de Reviewer vient de nous rejoindre. Parce que donc en fait il y avait des vrais gens normaux qui jouaient au jeu et puis autour d'eux pour les aider ou parfois les pas aider, il y avait plein de guest stars prestigieuses. Alors je vais en oublier plein, mais on a eu Alban Lenoir, Lalanne.
La première équipe c'était ça, dans les guests c'était Alban Lenoir et Sébastien Lalanne. Après il y avait Davy et Poulpe.
Davy et Poulpe, on a vu François Descraques pour combler deux minutes.
On a eu Marcus, mais que je connais pas. Personnellement,
No Life.
Pas voilà. Personnellement, tous les autres, tu les connais personnellement. Non. T'as passé tes vacances avec eux.
Je n'ai jamais vu avant cette apparition.
Elle a fait beaucoup de péniches avec les autres.
T'as même pas vu dans les pubs Comic Con qui étaient passées
si,
au
ciné. Si, mais j'ai pas forcément
pisté.
C'était lui. Voilà. Merci Karine, j'ai la même réaction.
Voilà, voilà.
C'est dans l'actu toujours.
C'est donc, fait.
Non, mais je ne l'ai pas reconnu et pourtant je les ai vus souvent, les pubs de. Voilà.
C'est les lunettes Men in Black, je pense. Ça change son visage.
Oui, tout à fait. D'accord avec toi.
Et après, il y a eu quand même cette apparition un peu bizarre d'équipe des visiteurs. Alors, je ne sais plus de quoi exactement. Enfin, des monsieur déguisés.
Un fan club des visiteurs de V, ouais.
Voilà.
Dont un lézard couvert qui a fait une
salade
de thon
améliorée.
Avec un peu de souris dedans.
Bah oui. Et pour faire penser aux émissions genre Koh-Lanta où ils devaient manger quelque chose qui n'était pas bon.
Bah les pauvres, hein, parce que honnêtement, la salade de thon, déjà comme ça, à l'arrache sur une chaîne chaude, parce que les boîtes elles devaient être là depuis un bout de temps, ça devait être super glam.
Mais elle l'a
pas
bien
trop
avalé,
assaisonné,
hein.
Et puis avec des souris en niveau.
Et voilà.
C'est pas Delphine comme hier, c'est Karine qui fait les blagues.
Non, mais moi, c'est voulu.
Non, mais bravo.
Karine peut être drôle.
Je trouve ça un petit
ah
peu
oui.
Plus bas, la Karine. Et sur ces dires, enchaîne.
Ça manque de rythme, comme dirait quelqu'un.
Oui, mais... ah bah pour ça, c'était rythmé. Hein, sur le geek... Non, le... Geek Quiz Show.
Il y avait du monde ou pas dans la salle hein.
Ah, c'était blindé. C'était blindé, ils ont refusé du monde encore.
Il y avait des gens qui étaient debout à l'arrière.
Moi j'étais dans la loge, j'entendais un son énorme, etc. Beaucoup de rire, donc ça a bien marché.
Non, non, il y avait énormément de monde, c'est de la folie.
Je tiens à préciser que...
Il y a eu un beau pinage au milieu.
Ouais, il y a quelques pinages. Non, et puis des questions pointues, et des questions où on avait juste envie de baffer les gens parce qu'ils répondaient pas. Je suis désolée, once upon a time, c'est une honte de pas regarder. Donc voilà.
Ça dépend.
Non, moi j'adore.
Mais je comprends pas. Lana Paria, elle est pas dans Once Upon a Time.
Non,
dans Desperate Housewives.
Mais non, elle fait femme de ménage, donc elle est Desperate Housewives dans la réalité.
Parce que non, elle fait pas femme de ménage.
Non, mais
parce que le fait qu'elle soit.
Elle est instruite, je sais pas quoi, elle fait quoi.
La mère, c'est le maire de la ville. Lana Paria,
en fait,
la méchante.
Ah, c'est la méchante, j'ai confondu avec Blanche-Neige.
Mais oui, c'est pour ça.
Mais quand tu dis une Desperate Housewives, c'est-à-dire dans une maison.
Elle est, enfin, elle est à la maison. Et
mais elle n'est pas femme au foyer, elle est mère de la vie.
Oui, mais bon, elle est dans une banlieue.
T'aimes bien, Thomas ? Tu trouves ça sympa jusqu'ici ?
Once Upon a Time ou podcast ?
Non, le podcast.
Non, c'est étrange, on balaye plein de sujets différents.
On parle tous les uns sur les autres.
Ça me dérange pas, mais je ne savais pas qu'on avait parlé de femme de ménage.
T'avais pas préparé, c'est ça ?
Ah, pas le sujet femme de ménage, non ?
Bien sûr, Wikipédia, c'est bon. On fait 5 minutes.
Le nettoyeur de surface est arrivé en France.
Donc oui, donc non, moi j'ai trouvé que c'était qu'il y avait plein de choses super bien et que j'avais juste envie de secouer quelques gens qui répondaient pas à des questions.
Et par contre, moi j'ai vu avant qu'il arrive sur scène le trophée.
Oui.
C'est quand même un truc. Quoi.
Moi, j'ai pas. Alors j'ai essayé de vous le voir mieux, mais
c'est
j'ai pas.
C'est une manette de jeu. Enfin, c'est une manette,
ouais.
Manette
c'est
de PlayStation.
Il y a un moment, c'est je me suis. Une...
Mais en bois quand même. Hein.
En bois.
Mais en bois.
À un moment, j'ai essayé de trouver du K9 dedans, mais c'est peut-être parce que ce matin, il y avait notre ami
Maud Robillard.
Voilà, qui avait K9 en laisse. Et donc, du coup, j'ai essayé de trouver du K9 dans ce truc.
Et mais... Pour l'avoir sous-pesé, le trophée, il est juste.
Il pèse une tonne.
Ah, mais c'est du bois massif.
Oui, mais c'est la fin de journée, il peut moins tuer de gens dans la Comic Con en tapant sur des gens.
Je comprends pourquoi le gagnant voulait tellement arrêter de poser pour les photos.
Ça fait du kilo.
Quelques petites projections aujourd'hui au programme de la journée, notamment un double épisode de American Horror Story consacré à Halloween.
On
a un spécialiste sur place.
Je suis spécialiste American Horror Story, doctorat et tout team.
T'es pas apparu dans un documentaire à la télé il y a pas longtemps.
Non, un truc formidable, pointu, super bien réalisé et où vraiment
avec une audience de 25% PDA France.
Et des interventions pointues et précises qui permettaient d'aller à fond pour mieux comprendre cette série même si elle est
nulle. Cette série formidable.
T'étais dedans, d'accord.
Ouais,
t'étais dans une cave.
J'étais dans une cave. Dans une cave avec trois mecs. Et tout de suite, ça te place le problème.
Sa chambre, en fait, chez lui.
Je suis Batman.
J'ai trois Robins.
Tu veux que je fasse une analyse sérieuse ou on arrête là? En même temps, j'ai fait un papier, vous le trouverez sur le village.
En même temps, on est à mort dans le tour American Story, si tu veux.
Et comment vous dire, c'est le quatrième jour de Comic-Con, nous sommes...
morts.
Retourne dans ta cave.
Oui, monseigneur.
N'oublie pas ton fouet.
Mais
sire. Bon.
Là, il manque la vidéo quand même. Hein.
C'est ça. Non. Cet épisode d'American Story, il était bien ou il n'était pas bien?
C'est le meilleur de la série.
Ah, c'était donc bien qu'il le passe.
Sur 12,
voilà. C'est le double épisode d'Halloween d'American Horror Story. Si vous devez voir une seule chose de cette série-là, c'est ce double épisode-là, parce que le reste est vraiment pas bon.
Donc d'accord. Faut s'arrêter à ça.
Voilà.
Moi, j'ai bien aimé.
Mais est-ce que c'est bien rapport au fait que tous les autres sont nuls, ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de le voir?
J'en sais rien.
D'accord.
C'est ce que j'explique souvent, c'est le principe Claude Lelouch. C'est-à-dire que quand t'aimes bien Claude Lelouch, tu sais pas si c'est parce qu'il est vraiment bien ou si c'est parce que par rapport au reste qui est vraiment mauvais, il est meilleur. Bah là, c'est pareil.
Claude, si tu nous écoutes, hein.
Certainement
pas. Salut.
Il vient de mourir.
C'est vrai, oh merde.
Quelqu'un d'autre a vu American Story?
Bah oui, non. Un petit peu tout le monde, quoi.
J'ai oublié. Non. Je me rappelle plus lesquels c'est. Lesquels?
Non, non, c'est
Halloween.
C'est Halloween.
Avec
c'est...
Je m'en souviens plus.
Un épisode en deux parties.
Je suis du même avis de Dominique.
Merci.
Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire dessus, en fait. Ah non, on a une dissidente.
Moi, j'ai bien aimé.
Controverse.
Je suis désolée. Ça m'a pas déplu.
Arrête de parler.
Non, moi j'allais dire arrête de t'excuser.
Ça m'a pas déplu quand même.
Il y en a qui sont gentlemen, il y en a qui ne le sont pas. Hein.
Non, c'est voilà. Le dernier épisode que j'ai pas aimé. D'accord. Bon. Mais je regarderai la saison 2.
Non, mais très honnêtement, le 5 il est fantastique.
Ah oui.
Le 6 moins bon, mais la première partie d'Halloween est géniale. Jusqu'à la dernière image, et on reprend au 6e, et là c'est foutu. Voilà. Et c'est vraiment dommage.
Ok. Une autre projection aujourd'hui dans un genre très 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 différent. Le premier épisode de la nouvelle saison d'Awkward.
Là, c'est Karine.
Cette petite pépite géniale diffusée l'été dernier sur MTV. La deuxième saison vient juste de commencer sur MTV. Et qu'est-ce qu'il était bien ce premier épisode de la deuxième saison?
Mais vachement bien.
Oh, j'ai eu peur de la polémique là. Mais t'es merdeux.
Je me suis inquiété aussi. J'ai dit, merde, Karine a détesté.
Alors là, on est parti prendre le meilleur. Bah si, entre vous deux aussi.
Ah, entre
vous. Non, si vous n'étiez pas d'accord. On est d'accord.
On est d'accord. Team Mati, Team.
Ouais.
Voilà. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je ne veux pas de quoi tu parles.
Tu veux dire les deux mecs, enfin.
Oui, les deux mecs. Les équipes Mati et Jake. Oui, c'est ça. Et toujours ce côté très équilibré. On aime les deux. En fait, on voudrait qu'elle soit seule, mais on aime les deux aussi. Donc, c'est un peu Team Jenna toute seule, Team Mati et Team Jake.
qu'il fasse un trouble, on n'en parle plus.
Vous ne connaissez pas le trouble. Vous n'avez pas lu les Arocs d'il y a quelques semaines. Le trouble devient un terme utilisé, usité.
Et ça donne envie, hein.
Oui.
Ça vous dirait qu'on fasse un trouble?
Oui, voilà.
Faut arrêter la drogue, hein, au village.
C'est les Arocs qui doivent arrêter la drogue.
Non, c'est pas eux qui ont inventé ça, ça existe depuis des années.
Oui, mais là, par écrit dans les Arocs, maintenant tout le monde l'utilise parce que les Arocs l'ont dit.
Pour quelqu'un qui utilise Crack Love.
C'est vrai. Oui,
Crack Love, c'est ce que je viens de dire.
Mais outre ce trouble, je pense que la série a d'autres, forces, vraiment.
Moi, je suis absolument épaté par le rythme de cette série. En fait, les épisodes font 22 minutes. Il y a encore le premier. Il y a 2 minutes de résumé de la saison d'avant, une bande-annonce de 30 secondes de la saison à venir. Et donc, il reste 19 minutes 30 d'épisodes. Et il y a plein d'autres séries. Elles mettent le même nombre d'événements, mais dans 42 minutes, quoi. Ça passe à un rythme vraiment fou. Et en même temps, c'est pas. L'inconvénient de ce genre de rythme, c'est que ça peut complètement tuer l'empathie pour les personnages, le travail sur la caractérisation. Et que là, c'est pas le cas, parce que moi, je suis vachement attaché à ces personnages. Quand même.
Mais voilà. Je trouve aussi que cet épisode-là, enfin, qui était un épisode un petit peu spécial parce que c'est le premier épisode de la saison 2 et donc ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus et fallait replacer pas mal de choses, et ben le premier épisode est beaucoup plus rapide que par exemple les épisodes qui sont dans la saison. Le premier et le dernier épisode avaient beaucoup de rythme. Donc je pense qu'ils sont repartis sur ce même rythme. Le bémol de cet épisode 1, saison 2, épisode 1, c'est surtout ne pas regarder la fin de l'épisode. Oui, parce que là, tu te pourris la saison, mais alors.
Il y a beaucoup de spoilers.
Voilà. Tu parlais de rythme, en 22 secondes, tu as juste toute la saison 2. Donc ça, c'est un peu dommage.
C'est-à-dire que lui, il est bouffe.
Je le sais. Merci. Mais tu sais que je le sentais, ça.
Ça fait 5 minutes que j'avais pas parlé.
Non, mais voilà, en tout cas, Awkward, je trouve que c'est. Enfin, je sais plus qui a dit ça ce matin, mais ça fait partie des séries ados qui vont dans le bon sens. Non, c'était pas ce matin, c'était dans le podcast Season 1.
Oui,
Alexandre Le Traîne,
podcast Season 1,
voilà, qui disait justement que Awkward et Teen Wolf allaient dans le bon sens pour MTV dans des séries ados qui renouvelaient le genre. Et je trouve que Awkward, c'est une sacrée réussite. Quoi.
Et en fait, faut même pas dire que c'est une série ado, c'est une série d'adultes.
Oui. Enfin, et moi, j'ai juste un mot à rajouter.
Et aux la adultes. Conseillère d'éducation, excusez-moi.
Vas-y.
C'était ça ?
Non, je t'en prie. Je conclurai après, il n'y a pas de souci. Je vais juste vous faire un truc à
la pizza. Non. Oui.
Chameau ! Non plus. Mais sur papier, on était calés.
La conseillère d'éducation, on n'a jamais vu ça, on ne verra jamais ça, c'est une folle. Et. En fait, on aimerait bien avoir ça au lycée.
Freaks and Geeks.
Oui, ah oui, super, voilà. Conseiller d'éducation de Freaks and Geeks. Génial, grandiose.
Ouais.
Ok.
Vas-y, je t'en prie. Sur Freaks and Geeks, je te laisse.
Une série à voir et à revoir en termes de série.
Absolument.
Et maintenant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le mot d'Emily.
Merci. Sachant que c'est pourri ce que j'ai dit. En plus, c'est juste que je voudrais remercier mes amis podcasteurs aussi présents. Parce qu'au final, il y en a 3 séries que je ne regardais pas qui sont. Vampire Diaries, Teen Wolf et Awkward, et que maintenant je dois me taper les intégrales de séries pendant l'été. Merci à vous.
De rien, super.
Et on va enchaîner sur un sujet.
Super motivé.
On va enchaîner sur un sujet qui va peut-être te donner envie de voir une 4e série.
Non. J'ai vu ce qu'il y avait sur le blog du Sullivan et je ne regarderai pas. Non.
Vampire Diaries. Non. Tu dois voir Vampire Diaries. T'as trop de la chance.
Alors vous ne voyez non, pas, parce mais Emily est dessus. En train de dire non de la tête avec ses cheveux. C'est assez impressionnant.
Si vous avez vu une pub L'Oréal avec Cindy Crawford qui se coule la tête.
Très vite.
Oui, en accéléré.
Ça tourne maintenant.
Non, mais vraiment, sérieusement, regardez Awkward. C'est vraiment. Je me rappelle plus du nom de cette jeune femme formidable. Donc, vous allez regarder ma critique sur le blog et vous le trouverez. Mais c'est vraiment une série d'auteurs, quoi. Le premier épisode de la saison 2, il est écrit, réalisé par la créatrice de la série.
Lorraine
Yengerich. Elle est géniale, Karen Wittman. Voilà. C'est ça, des vrais professionnels. Bravo, des vrais spécialistes.
C'est ça, des vrais professionnels, et tu me regardes. C'est dégueulasse, Oh,
t'es en face de moi.
Il y a plein de gens autour de la table.
Et l'actrice
c'est ça, des vrais professionnels.
L'actrice principale d'Awkward, qui joue aussi dans l'épisode spécial Halloween.
Exactement.
D'American Horror.
Joue aussi dans les Frascottes.
Et voilà. Et
par et Bertrand pour ce lien.
Oh là là. Parce que donc c'était encore un événement de cette journée, une conférence sur One Tree, les frères Scott.
Merci. Annie Pétaral aussi.
animé par Allociné.
Ah bon non.
alors voilà, voilà, tout ça parce que je suis pas allé, Julia m'enduit d'erreur. Je trouve ça assez.
C'est
pas
vrai, j'ai pas menti.
Alors voilà, voilà, voilà. Alors j'y suis pas allé, tu vas me forcer à l'avouer. Bravo, bravo. Non, bravo, la classe, la classe. On t'invite de notre podcast et tu nous dénonces comme ça carrément. Hein. La délation, c'est super mal. Toi, t'étais le genre pendant la guerre, hein, tu les envoyais tous en camp de concentration, c'est bien ça.
Je suis question avec lui au final.
Oh, super. Bah, tant qu'à faire, si c'est sur un sujet aussi important, il fallait au moins aller jusque-là,
oui,
si vous voulez.
Oui, point coup d'arrêt sur One Tree. J'ai rien
sur En même temps, une série qui se permet de faire le tueur dans le lycée, si tu veux, on peut point de guiller sur cette série.
Ah, il y en avait un dans Buffy, je rappelle.
D'accord.
Bon, allez, donc Julia, cette conférence au One Tree.
J'aimerais me faire parler Thomas parce que moi, j'ai malheureusement pas eu la chance de l'avoir en entier. J'ai loupé la première partie qui était animée par Allociné, apparemment avec talent. Donc, je pense que c'est important que Thomas parle.
Oui, c'est pas moi qui l'animais celle-là.
Mais c'est gentil. Mais c'est important que tu parles quand même.
Donc c'est la seule qui a été animée avec du talent, c'était pas la mienne. Donc.
Non,
c'était quand même. Oui, non, c'était la troisième du Comic-Con et celle-là, ça parlait de l'après One Tree Hill. Donc ce que allaient devenir les acteurs après, ce qu'allait faire le créateur, etc., etc. Puis on a essayé, parce que les deux premières étaient très, très, très axées sur des questions que nous on leur posait, donc là on a vraiment laissé la parole aux fans surtout. Et on m'a tiré le t-shirt dans tous les sens pour qu'on...
Je peux poser une question.
Vous pouvez enlever votre t-shirt.
Non, pas moi, mais c'est... Je suis un peu déçu qu'on ne l'ait pas fait.
Tu peux le laisser.
D'accord. Non, mais... c'était une super fan, mais...
Non, mais moi, je la kiffe.
D'accord. C'est bien. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 3 quarts d'heure, non, 50 minutes, parce qu'ils ont resté un peu plus longtemps. Et c'est cool. J'entends Karine pouffer depuis tout à l'heure
Parce que Émilie, voilà.
Ça t'intéresse pas ce que je dis, Émilie
Non, mais tout à l'heure, elle écrivait ses SMS, maintenant elle mange. Non, mais tout va bien, quoi.
Non, mais cette conférence One Tree Hill a donné la part belle aux fans. Et c'est vrai que.
Et ça s'est terminé dans un beau moment de communion, c'est ça.
C'est vrai, un beau moment de communion. Mais Marc-Antoine l'a souligné à la fin de la conférence. C'est vrai que One Tree Hill a peut-être été une série qui a été mieux comprise par le public en dehors des États-Unis. C'est-à-dire qu'avec plus de succès à l'étranger que dans son propre pays. Et il voulait rendre hommage à ça et rendre hommage aux fans qui avaient permis de faire vivre la série aussi longtemps. Et je pense que ce moment, c'était vraiment ça. Et on a vu que les fans étaient très présents avec des questions parfois très très pointues. Et point d'ironie là-dedans. Et voilà, et ça s'est fini dans un beau moment de communion où ils ont choisi de rendre hommage à l'équipe en chantant le générique.
Je suis très fier des trois trucs qu'on a fait autour des frascottes, parce qu'à la première, on a fait chanter au public Happy Birthday pour le créateur. À la deuxième, il y a Austin Nichols qui a dansé Moonwalk sur scène. Et là, il y a eu cette chanson des frères Scott. J'ai réussi mon Comic-Con.
Il a fait un moonwalk, c'est ça ?
Il a fait un moonwalk. Il a fait la scène de Footloose, je crois.
Et ce qui était aussi très sympa sur cette conférence et sur les conférences précédentes, je pense, c'est que pour le coup, tu te rends compte que l'équipe de One Tree Hill, ils ont dû bien se marrer quand même pendant les tournages. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se balancer des vannes et d'essayer de se battre et de se balancer de la flotte et ainsi de suite. Donc, tu vois qu'il y avait une bonne ambiance sur le tournage.
T-shirt mouillé.
Non, même pas en fait.
Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est pas trop ce qui s'est passé. Parce que,
oui, c'est ce que j'étais en train de penser.
Le mince.
Bon, c'est bien qu'on réaxe le débat vers des choses.
Oui, Thomas.
Dès qu'il y a moyen de parler d'abdos, Karine et moi, on est à fond. Il n'y a pas de problème.
C'est justement ce dont j'allais parler.
Il est temps que ça s'arrête, cette aventure. Je sens comme un schisme dans l'équipe.
Non, essayez d'être sérieux. Excusez-moi, monsieur.
Thomas va pleurer en direct.
Non, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, nous, on les a animés.
Comme Dawson.
De quoi ?
Tu pleures comme Dawson.
Ah non, mieux. Et moi, j'ai pas de gif. Je vais faire des gifs en live.
Il manque l'image.
Non, mais nous, on les a vécus sur scène, etc. C'était vachement intéressant de vivre ça et de... Et d'animer ces conférences et ces masterclass, etc., c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, on a appris plein de trucs et c'est extrêmement éclairant en fait, d'avoir des questions de fans. Moi, je m'attendais à qui c'est qui a les plus beaux abdos, enfin, des trucs comme ça, des trucs très cons. Et en fait, il y a eu des questions vraiment intéressantes. Mais pour le coup, ce qui m'a le plus intéressé, moi, c'était de rester en coulisses avec eux et de les voir en fait, vivre entre eux. Non, mais c'est...
Vie ma vie de vie. Ouh,
ça n'a rien à voir. Non, c'était par rapport à ce que tu disais qui était extrêmement intéressant. En fait, tu disais qu'ils avaient l'air, ils donnaient l'impression de s'être marrés.
C'était pas chiqué sur scène, c'est ça que
c'est
tu veux
pas
dire.
Du tout chiqué, en fait. Et c'est pas du tout chiqué, c'est-à-dire qu'ils se balancent vraiment des vannes tout le temps dans la gueule. Et en plus, Mark Schwann, le créateur, en fait, excusez-moi. En fait, il apprend beaucoup de choses à ses acteurs par rapport à la série dans laquelle ils ont joué, mais c'est des anecdotes dont ils ne sont pas forcément conscients, la signification de certaines choses, etc. Et quand tu vois Robert Buckley qui écoute attentivement pendant 5 minutes Mark Schoen qui lui raconte une anecdote sur la série avant de rentrer sur scène et qu'on est obligé de retarder le truc parce que Buckley, il veut absolument écouter Schoen, tu sens qu'il y a vraiment eu une aventure humaine importante là-dedans. Et deuxième anecdote, il y a un des comédiens en fait, qui disait en coulisses moi j'ai jamais été vraiment fan de ce genre de série, ça m'intéresse pas plus que ça, j'en referais pas une série comme ça, et qui me disait en fait j'ai fait cette série là simplement à cause de Mark Schwann, parce que quand il te dit un truc, tu l'écoutes et te donne envie de vraiment faire une série. Et il me dit pendant X années j'ai joué dans une série que je n'aime pas en gros, mais je l'ai fait parce qu'il y avait Mark Schwann qui te parle et qui te dit on va raconter ça et te donne vraiment envie de le faire, et en plus il y a tous ces acteurs autour de toi qui te donnent envie de vraiment te défoncer, de vivre avec eux. Et le voir, et ensuite le voir ensuite sur scène, qui font. Moi, le premier jour, c'est aussi Nicole sur scène. Ensuite, j'arrête de parler. Aussi Nicole sur scène qui se lève et qui fait merci aux fans, c'était vraiment cool. On est vraiment touchés. Je me dis, voilà, ouais, c'est bon, ça. Ils font tout ça à chaque fois. Dans 30 secondes, t'as fini de pleurer, c'est bon. Et en fait, non, il est vraiment super touché, quoi. Et bon, ensuite, moi, on peut ne pas aimer la série, mais en tout cas, la sincérité des gens qui étaient là, on ne peut pas la mettre en cause.
Allez, enchaîne. Justement, Dominique, tu as pu parler un peu à Mark Schwann, et d'après ce que tu m'as raconté de cette interview qui sera prochainement en ligne,
oui.
Ça confirme un peu ce que Thomas disait, dans le sens où c'est quelqu'un qui aime parler et qui est intéressant et qui a envie de l'écouter.
Ah oui, mais tout à fait. On lui a posé deux questions.
Sachant que ni l'un ni l'autre.
Ne regardions Wayne Trill, mais. Voilà, on lui a demandé des questions sur son travail, sur un projet qui n'a pas abouti, c'est Shelter avec J.J. Abrams. Mais non, il est très intéressant. Il est très intéressant à écouter parler. Et puis, en effet, bah voilà, il a une carrière de showrunner. Il a quand même showrunné une série pendant 9 ans sur la CW. Bon, bah, tu te têtes, écoute, quoi. Mais après, bon, la série, voilà, on n'aime pas. Moi, je sais que c'est pas mon truc.
Sur Shelter, il a dit un truc très intéressant. Il a dit qu'en fait, sa toute première version de scénario, donc le projet avec J.J. Abrams, la toute première version du scénario de Shelter, en fait, était meilleure que la dernière. Parce qu'il expliquait ça de manière très simple. Intel est intervenu sur Intel, le studio est intervenu, ensuite il y a eu machin, etc. Et en fait, il était moins fan du tout dernier, de la toute dernière version du script que de la toute première qu'il préférait. Il aurait vu la première série et pas la seconde. Et au final, il n'était pas si mécontent que ça, en fait, que Shelter ne voit pas le jour.
D'accord. Mais en interview, il a dit que c'était un des travaux dont il était le plus fier. Alors, peut-être qu'il se focalise, quand il dit ça, pour être sincère, sur son premier scénario et puis qu'il essaie d'oublier le reste. Mais,
c'était un projet pour la CW aussi ?
Non,
je
ne sais
pas. C'était un nettoyage,
je crois.
C'était un nettoyage, la CW. Ok. Est-ce que je vais pouvoir peut-être vous demander à chacun de nous faire un petit bilan de ces 4 jours de Comic-Con, ce que voilà, vous en remporterez, Laura ?
Oui, c'est parti. non, c'était très fatigant. Moi, j'ai fait que 3 jours. J'ai fait jeudi, samedi, dimanche. J'ai quand même hâte que la Comic-Con se détache de la Japan. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes ici, mais moi, j'espère que ça arrivera à un moment, parce que même s'il y a des gens qui s'y retrouvent dans les deux, moi, je sais que je préférais que ce soit quelque chose peut-être d'un peu plus petit avec moins de monde, mais là, on ne voit rien, finalement. C'est trop grand, il y a trop de gens, il y a trop de stands, et on ne s'y retrouve pas. Même géographiquement, c'est un peu n'importe quoi.
surtout que cette année, ils ont vraiment mélangé les choses.
Ouais, cette année, c'était pas une réussite, ce qu'ils ont fait.
Et du coup, quand on est intéressé vraiment plus par un axe que par un autre, qui est mon cas, parce que pour être super honnête, la culture japonaise, j'y connais vraiment rien, je sais rien, quoi. Et donc, du coup, effectivement, les petits îlots de Comic-Con sont un peu noyés au milieu de la Japan.
J'ai vu aucun des stands de Comic-Con, les trucs Stargate,
ils sont tout au fond maintenant.
Alors, ça, je trouve ça idiot, parce que c'est ce qu'on veut photographier, c'est ce que les fans veulent photographier, se faire photographier dessus.
Exactement.
Et là, il y avait le coin web-série, d'accord, avec les graphistes.
Et là aussi,
qui étaient avec leur don, donc on pouvait à peine respirer. Des événements... Non, mais c'est vrai. Ouais, exactement. Les événements hurlants à côté de la scène Comic-Con, c'était vraiment pas possible.
Ça, malheureusement, ça a toujours été le problème, c'est insolvable.
Bah ouais. Ouais. Plus en silence la prochaine fois, n'est-ce pas ?
Laura, tu...
Non, voilà, c'est mon petit regret, mais à part ça, c'était bien sympa.
Delphine ?
Si, si, t'es là. Hein.
Oui, bah, non, mais c'était très sympa, c'était très fatigant, c'est clair. Moi, j'étais là les 4 jours. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu la masterclass d'Alexandre Astier, c'est un exercice sur lequel il est super à l'aise, il fait son show, donc c'est forcément agréable à voir. Voilà, j'ai vu le on va appeler ça le Simon Astier Show. Donc,
tu veux pas te dire le Geek Quiz Show?
Non, parce qu'en plus, je crois que c'est
le Quiz Geek Show.
Le Quiz Geek Show.
Voilà. Simon Astier Show. C'est super sympa, mais c'est vrai que ouais, moi j'ai vraiment pas eu le temps de trop. J'ai un peu déambulé dans les. Effectivement, je pense que c'est un peu mal foutu au niveau des stands. Ouais.
L'accent a été beaucoup mis sur les boutiques, je trouve, cette année. En fait, les boutiques sont centrales et les stands sont périphériques, alors que tu viens pour les stands et après, comme on disait tout à l'heure, si tu veux trouver les boutiques, tu les trouves.
Oui, c'est.
Si tu as envie d'acheter, tu n'as pas besoin qu'elles soient au centre.
Ouais.
T'as envie de voir des gros trucs au centre, des trucs impressionnants, et c'était pas trop le cas cette année.
Il y avait un truc qui était impressionnant en entrant, c'est le stand de New Watch,
oui,
quand même. Il a vachement
l'air. Il y a eu des super émissions dans le
Instagram. Je pensais qu'il y avait les moi.
Non, mais.
Non, la seule chose qu'ils ont pas fait, c'est de servir des hot dogs, des frites. Avec
ouais, sérieux, ils auraient trop dû faire une deuxième caravane buvette.
Vous avez un beau minibus argenté.
Il faut une licence, apparemment.
Oui, il faut une licence.
Oui, tu peux ça peut s'arranger.
Ils peuvent distribuer des bonbons. Bon, pas. Non, je pour l'année prochaine.
Une licence bonbon pour ça, je suis désolée.
Carole, t'es au milieu de la Comic-Con?
Alors moi, c'est vrai que c'est ma Comic-Con cette année, ça a été un peu en saut de puce, parce que c'était un petit peu compliqué. Il y avait un autre événement.
Là, la tronche des sauts de puce. Hein.
C'était un gros saut
de puce. Fontainebleau, Villepinte. Hein.
Ah, mais c'est de la puce de compétition. Hein. Donc, oh, dire, voilà, hein, on ne fait pas de la puce.
Dopé.
Hein. Donc c'est un peu compliqué. Bon, évidemment, en tant qu'Astiera... je peux difficilement dire que moi, mon grand moment, ça a été Alexandre Astier. Hein.
Ouais.
Ça, je peux difficilement le nier. J'ai adoré le voir en masterclass, évidemment. J'ai adoré apprendre plein de choses sur Calmot Résistance. Du coup, je suis encore plus comme une dingue à me dire, faut que ça arrive, j'en peux plus d'attendre. Et puis oui, un petit coucou aux copains de No Watch qui ont fait un super boulot sur le stand. Et on a pu enregistrer des émissions vachement sympas et tout. Il y avait du monde, c'était cool. Donc. Bon, un beau Comic-Con.
Karine, un mot à ajouter?
Merci Karine. Thomas.
C'était même pas un mot, c'était une lettre.
Est-ce qu'éventuellement tu aurais une deuxième onomatopée pour compléter la première?
En fait, moi, j'ai fait deux événements l'un à la suite de l'autre. C'est un peu le tourbillon. Hier, je suis venue pas en dilettante, mais presque. J'ai quand même participé à des interviews en professionnel, donc c'était pas le but.
Désolée.
Mais
j'étais super contente.
Tu veux qu'on en parle?
T'as vu comment elle se plaint? C'était quand même Taylor Hawking, quoi. Je n'ai pas eu ma photo.
C'était coupé.
On va pas faire dans les querelles personnelles.
Non, mais en fait, je déconne. C'est vraiment très bien. Effectivement, le problème, c'est les boutiques. C'est très commercial et. Tu fais les allées, il y a trop de monde, ça va. T'arrives même pas à voir un stand. Si tu veux voir même un produit, c'est pas possible.
Je propose, c'est que tout de suite en partant, on attaque direct la révolution. Hein.
Ouais,
on brûle les boutiques.
Bah, on démonte les boutiques.
Elles sont démontées, je pense.
Elles sont démontées, merde.
J'ai pas vu beaucoup de goodies distribués cette année.
Non.
Mais les gars de No Watch sont partis faire la tournée des stands justement pour récupérer des goodies.
Apparemment, il y avait aussi des super lunettes France 4, on les a pas vues de près.
Ben non.
Regardez,
je veux des lunettes qui clignotent.
J'ai monté ta photo.
Thomas, un bilan de la Comic-Con?
Alors, moi, c'est toujours un peu difficile de faire le bilan parce qu'en fait, moi, je vois pas grand chose en fait, malheureusement. Je déambule pas beaucoup, je peux pas assister aux événements, j'ai assisté à zéro événement.
C'est ça d'être premium, quoi.
Oui, le meilleur souvenir, c'est le badge premium que vous pouvez pas voir. qui me permet de manger, mais j'ai pas pu manger une seule fois. Donc
t'as dit une fraise tagada, t'as même pas.
J'ai mangé une fraise tagada, ouais. Et non, j'ai bu une bière aussi.
C'est nourrissant.
Et un croco. Vous gardez les comptes ou quoi?
En 4 jours!
C'est la police ou quoi?
En 4 jours, c'est tout ce qu'il a mangé. Voilà!
Et non, mais donc moi j'ai un peu de mal en fait. C'est toujours la même frustration à chaque fin de Comic-Con. J'aimerais vraiment assister à des événements. Enfin, moi j'avais mis dans mon petit carnet, je vais assister à ça, à ça, à ça, et puis je peux pas malheureusement. C'est toujours un peu embêtant. Donc ça m'intéresse beaucoup tout ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous avez vécu le Comic-Con en marge de moi, c'est un peu étrange. Mais donc voilà, mon objectif l'année prochaine, c'est de vivre au moins des trucs. Ce serait pas mal.
Vivre ta vie.
Non, mais c'est pas. Ensuite, il n'y a pas du tout de frustration. Enfin, si, il y a une frustration, mais c'est pas grave non plus. J'ai vécu d'autres choses qui étaient aussi excitantes, professionnellement. Meilleur souvenir, quand je me suis endormi en salle de presse.
Ça devait être pas mal.
Au pied de Dominique, je crois. Ouais,
c'était bien. C'était un beau moment de fraternité.
Exactement. Et l'autre, c'est quand j'ai mis le pied de caméra sur les bras de Dominique qui voulait écrire un article.
Ouais, là par contre, tu m'as fait chier.
Donc c'est ton pire souvenir, c'est ça?
Ouais, voilà.
D'accord. En fait, tes meilleurs souvenirs sont tous liés à Dominique.
Oui, oui.
Là,
c'est beau, c'est beau.
Dominique et ma boussole.
Et là, on sort les violons.
Un moment d'amitié qui commence.
C'est mal.
Alors le problème, c'est que.
Non, le meilleur souvenir, c'est ce podcast. Voilà. Non, mais en plus, c'est vrai, je ne déconne pas. Non, mais attendez. Personnellement, mon meilleur souvenir, c'est ce podcast. Et je le dis de manière totalement sincère. Vous avez vu ma réaction tout à l'heure quand vous me l'avez proposé.
Oui, ça, c'était fantastique.
Donc voilà, mon meilleur souvenir, c'est maintenant. Merci.
Julia, ton bilan de la Comic Con.
Alors, je partage l'avis de Karine sur le fait que c'était un peu la folie les premiers jours, c'est-à-dire les alertes au Fontainebleau Villepinte, c'est juste pas possible. J'ai vraiment fait un nervous breakdown samedi matin, où là j'ai vraiment cru que j'allais me mettre à pleurer.
Dites-nous en plus.
Non, mais c'était pas possible. Honnêtement, c'est...
Dites-vous que j'habite Fontainebleau.
Oui, non, mais c'est...
Non, c'est pas ça, ils lui ont inversé les interviews.
Non, mais c'est... Oui, il y a eu des inversions d'horaire, et donc en fait, je suis venue, je suis repartie, je suis revenue, enfin c'est...
Sérieux?
Oui, samedi, elle est arrivée le matin ici, elle a...
Son nervous breakdown, c'est...
Mais ceci dit, c'est en partie la faute d'Orange. Je rappelle que c'est en partie de la faute d'Orange qui...
Avec vous.
Voilà. Qui a fait un problème, enfin bref. Bon. Toujours est-il que c'était... Ce qui fait que moi, j'ai pas vraiment profité de la Comic-Con avant samedi soir, après-midi. Donc voilà, mais aujourd'hui, j'ai bien pu en profiter, participer à des événements, et vraiment, c'était vraiment agréable. Maintenant, je partage le fait que moi, juste pour info, avant hier soir, je savais pas où était la Comic-Con. En fait, j'avais vu que la Japan Expo. C'est pour l'anecdote, parce que je ne savais pas qu'il y avait un deuxième hall. Donc je n'ai découvert qu'il y avait la scène de la Comic-Con que hier soir et aujourd'hui.
C'est pas le meeting de la gourgette, là?
Mais en fait, donc, quand j'y suis passée...
T'as plutôt à rester ici ce soir, voilà. Et on te récupère dans un moment.
Et donc quand j'y suis passée, c'est ça, exactement.
T'as pas des trucs à manger.
Et donc jeudi et vendredi, quand je suis passée, j'étais assez super bizarre quand même, la Comic-Con. Il y a vachement de boutiques,
vachement super chelou.
J'étais là, c'est quand même bizarre. Donc voilà, donc... pour l'anecdote, voilà. Non, mais c'était sympa. Et puis, c'est toujours agréable de voir plein de gens qui viennent d'univers différents qui sont rassemblés dans un même endroit parce que ça fait des rencontres rigolotes. Et puis, je suis assez d'accord avec Thomas sur le fait qu'un de mes meilleurs souvenirs sera aussi ce podcast. Donc, voilà.
C'est mignon. Okay. Celui d'hier.
Je pense que celui d'hier, c'est quand même le concours du grand n'importe quoi.
Oui, hier, je pense qu'il était plus hystérique quand même.
Mais c'était bon.
Ah bon,
mais
oui, on est en dessous.
Non, mais pardon, oui, celui d'hier.
Corrigeons ça.
Celui d'hier remporte la palme des niveaux d'hystérie sur le visage de Dominique.
Je confirme. Des secours dans les yeux de
Dominique. Sauvez-moi.
Le podcast d'hier, le concept, c'était Dominique et son harem.
C'est Dominique quatre gonzesses.
C'était
bizarre. C'était bizarre. C'était bizarre.
Tu connais moyen avec le harem de Dominique, si tu veux.
Sinon, j'ai le mail de Mark Schwann.
Émilie, ton bilan de la Comic-Con.
Moi, très mitigée sur certains points, parce que déçue sur notamment le panel web-série et le côté « t'arrives, t'as plus que les boutiques » et qu'en effet, tout le machin, tout le décorum est au fond, et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression d'avoir raté tout un bout que d'habitude je vois, parce que pas le temps d'y aller. Et en truc très très marquant et sur lequel je suis ravie, c'est le gros succès sur le Visiteur du Futur. C'est la super avant-première qu'il y a eu avec une foule en délire, c'est les petits événements et on voit le lien et ainsi de suite, et ça m'a fait plaisir parce que ça me rappelle quand même un peu l'ambiance qu'on avait il y a deux ans sur HeroCorp, et je suis contente pour eux de voir, voilà, il y a deux ans ils avaient un tout petit stand de French Nerd où ils débattaient comme ils pouvaient pour faire connaître, ils n'avaient pas une thune pour faire quelque chose, et puis maintenant ils avancent, et je me dis qu'il y a encore une chance pour qu'un jour ces mecs là fassent des super séries télé de science-fiction fantastique, et ce sera canon.
Demande qui pourrait leur donner cette chance. Dominique, un bilan de la Comic-Con?
Oui, assez mitigé. Bah, ça reprend un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'ici. Moi, un petit bémol. Je trouve que les événements BD étaient un peu moins pointus cette année, un peu moins intéressants. Même si la première conférence à laquelle j'ai assisté, animée par Fabrice Sapolsky, était assez intéressante. Le reste, je suis un peu resté sur ma faim, en fait.
Ok, eh bien, je crois que sur ce, nous allons pouvoir mettre fin à ce podcast.
On a eu la vie de Sullivan, en fait.
Sullivan,
non, parce que tu vas pas passer entre les gouttes. Attendez, on va reformuler.
Qu'est-ce que t'as pensé de ça?
Donc, à la demande générale, mon bilan de la journée de dimanche.
T'es arrivé à quelle heure déjà?
Je suis arrivé à 10h05 et des boîtes.
Ton bilan de ce Comic-Con 2012.
Ouais. Eh ben écoutez, la journée du dimanche, j'étais vraiment... Non, moi, j'étais super content de la conférence Doctor Who, évidemment. Je suis content de les avoir vus. J'aime bien le côté pince sans rire de Murray Gold, qui correspond très bien à son compte Twitter. cette espèce d'humour à froid, un peu sec, assez, qui est très lui, quoi. Assez pas british en même temps.
Oui. J'ai eu un avant-goût.
Pour le assez,
mais
évidemment.
Je n'étais pas abonné à son compte Twitter, sinon j'aurais été préparé psychologiquement.
Voilà. Et puis ce sacré Toby Jens, et puis même Chris Chibnall, que j'ai trouvé très intéressant. Je suis de les mêmes. Bon, c'est pas mon scénario de Doctor Who préféré, même s'il a fait des très bonnes choses sur certaines fois, mais pas toujours. Et puis.
Ton pire souvenir.
Mon pire souvenir de la journée d'aujourd'hui.
Son repas de ce midi, parce que franchement, je trouve que la sauce sur les nouilles. Non,
il a pas eu les nouilles, lui. Hein.
Non, j'ai pas pris de nouilles, parce que vu que j'avais rien que mes petits trucs, j'ai déjà explosé, il y avait de quoi nourrir le Bangladesh, donc j'avais pas acheté des nouilles en plus, si tu veux, quoi.
C'est une culture.
Bon, alors, comme on est rendu à parler de mes nouilles, si vous voulez, globalement, je crois qu'il est vraiment le temps de...
Karine, un mot, peut-être.
De conclure.
Jéphine, une remarque.
Mais ça, c'est un super concept. C'est un mec en fait qui rajoute toujours un mot à la fin des phrases ou un truc comme ça, une fuite, et qui rend la phrase sexuelle. C'est pas mal ça.
En fait, je me tourne dans mes deux collègues du village parce que je suis pas complètement, totalement, absolument persuadé d'être sûr qu'on arrivera à en enregistrer un autre podcast avant de vous dire au revoir. Alors, au cas où on n'y arriverait pas.
Non.
J'avais dit dans un article sur Allociné il y a quelques temps, sans vous en parler à vous deux, mais en parlant juste à Sullivan.
Oui, on l'a lu d'ailleurs.
Super, merci.
Attends, parce que ça, tu vas pas couper ça par contre du podcast, d'accord? Qu'on allait faire un article, une interview de vous, pour justement parler de ça. Donc là, vous êtes trois, vous me dites oui.
Oui.
Il n'y a pas de problème.
Oui. Et ben voilà, donc ça, c'est fini.
Écoutez, si jamais on se parle plus en audio.
Non mais si demain vous mourrez.
Non, c'est nous.
On se sera dit au revoir.
On a encore plein de choses. On a encore plein de choses sur la Comic Con à vous poster. On a des interviews géniales avec Mark Schwann, avec l'équipe de Doctor Who qu'on a eu rien que pour nous, surtout Dominique.
Moi j'ai mangé de l'interview, mais
pendant plusieurs minutes, et voilà, tout ça va être posté au fil des prochains jours. Et donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir encore suivis pendant cette Comic-Con. Et bonjour chez vous, à très bientôt, merci.
Merci beaucoup.